l'Église orthodoxe aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, bonjour. Le titre de notre émission a pour but de souligner l'unicité de l'Église orthodoxe qui se manifeste comme une communion des églises locales, patriarcales et autocéphales ou autonomes qui partagent la même ecclésiologie, confessent la même foi et appliquent le même droit canon. Le nom de cette église provient de l'expression grecque orthodoxos qui signifie « conforme à la croyance droite, sans déviation, conforme à la juste foi » mais aussi à la juste louange. Car toutes les églises orthodoxes locales sont unies dans la confession d'une foi commune, la juste foi chrétienne, l'orthodoxie. Dans la fidélité à l'Évangile et par l'attachement à sa tradition, l'Église orthodoxe a préservé inchangée la foi juste annoncée au monde par les apôtres sous l'impulsion du Saint-Esprit et selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. En soulignant l'importance de la sainte tradition, le père Serge Bulgakov, théologien russe qui a été doyen de l'Institut Saint-Serge à Paris, affirmait dans son ouvrage de référence appelé l'Orthodoxie, je cite, « La plénitude de la foi et de la doctrine juste ne peut pas être incluse dans la conscience d'un seul membre, elle est gardée par l'Église entière qui, sous sa forme générale et de diverses manières, le transmet de génération en génération en tant que sainte tradition. Celle-ci en est la mémoire vivante qui contient son enseignement vrai tel qu'il se développe dans son histoire. Ni musée archéologique, ni catalogue savant, ni non plus dépôt inerte de la foi, c'est une force vive propre à un organisme vivant. La tradition est l'unité et l'identité spirituelle de la vie ecclésiale, et elle reçoit une valeur normative justement en fonction de cette identité. Et comme le même esprit habite en tout homme qui vit ecclésialement, chacun est non seulement en contact avec la tradition, mais encore il y entre à la mesure de son ecclésialité. Cette mesure est cependant aussi celle de la sainteté. Aussi la sainteté est-elle la norme intérieure qui détermine ce qui est la tradition ecclésiale. Elle baigne de sa lumière ce qui est la tradition. » Fin de citation. Pour nous parler de la sainteté et de la sainte tradition de l'Église, nous avons invité le père archimandrite Siméon. D'origine française, il est le fondateur et le higoumène ou l'abbé du monastère Saint-Silouane situé près du Mans. Ce monastère abrite une communauté monastique internationale qui célèbre tous les offices en français.
Pourquoi pensez-vous que le dimanche d'après la Pentecôte a été consacré par l'Église à la fête de tous les saints?
Je pense qu'il y a un lien, je ne sais pas si nos pères ont pensé véritablement à créer un lien entre cette fête, mais je pense quand même. En tout cas, l'Esprit Saint les a inspirés, parce que la sainteté de chaque homme, la sainteté est possible que par le mouvement de l'Esprit Saint en nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous recevons les dons du Saint-Esprit, lorsque nous sommes chrismés, nous recevons la potentialité d'une sanctification plénière par ces dons qui nous sont donnés. Et à nous, évidemment, d'actualiser ces dons, de les faire grandir en nous, de les faire vivre. Et il est logique que l'Église prie tous les saints après la fête de la Pentecôte, puisque c'est à cause de la venue de l'Esprit Saint que nous avons cette potentialité de sainteté et qui est exprimée concrètement au travers de tous ceux qui nous ont précédés et qui ont vécu cette sainteté. Une sainteté connue, canonisée, et une sainteté inconnue au travers de tous ceux qui n'ont pas reçu, la couronne de l'Église pour qu'ils soient des repères et des phares pour chacun d'entre nous, mais nous avons suffisamment de saints pour être contentés et nous repérer par rapport à ce que nous avons à vivre. Mais il y a beaucoup plus de saints que sur le calendrier, ça c'est évident. Et ça veut dire que nous aussi, nous pouvons devenir saints. Ce n'est pas réservé à une élite de l'Église. Chacun d'entre nous, dès que nous avons été baptisés, chrismés, nous avons la potentialité en nous de la sainteté. À nous d'œuvrer pour faire grandir ce que nous avons reçu. Mais la sainteté n'est pas un état, contrairement à ce qu'on pense souvent, un état de perfection. C'est pas comme si l'homme, d'un seul coup, par ses efforts et par la grâce, pouvait devenir parfait. Nous disons dans la Paniquide, il n'y a pas d'homme qui vive et ne pêche pas. Donc il n'y a que le Christ et la Mère de Dieu qui, par sa volonté, n'a pas voulu tomber dans le péché. Et par la grâce de Dieu aussi. Mais nous savons que nous sommes faibles, que nous tombons, que nous perdons la grâce à certains moments volontairement, se dire « bon, c'est pas possible, la sainteté n'est pas pour moi ». Eh bien, non, je crois qu'on fait une erreur grave lorsque l'on pense ainsi, parce que même si nous avons péché, le seul fait de se retourner, de dire « Seigneur, aie pitié de moi, c'est bien moi qui suis tombé dans ma faiblesse, que tu as vu, et je me laisse regarder par toi, j'accepte que tu me vois dans cette faiblesse ». Et j'accepte aussi que tu me relèves, parce que c'est toi qui vas me relever, c'est pas moi qui peux me relever tout seul. Relève-moi, mets-moi debout dans ta lumière, et fais que j'avance vers toi. Et bien voilà, c'est ça le chemin de la sainteté, qui, au travers de ce mouvement, je tombe, je me relève, comme disent les pères, nous tombons, nous relevons, ou nous nous laissons relever par Dieu plus exactement, et bien ce cheminement-là, c'est le chemin de la sainteté. Et cela doit encourager tous ceux et toutes celles qui sur cette terre luttent contre leurs passions, contre leurs faiblesses, et qui quelquefois sont dans le découragement. Non, ne tombons pas dans le découragement. Le découragement est un piège du démon qui veut nous faire oublier Dieu et nous centrer sur nous et nous laisser entendre que seuls nous ne pouvons rien faire et que tout est fichu. C'est vrai que seuls nous ne pouvons rien faire, mais tout n'est pas fichu parce que le Seigneur nous prend par la main. Si on regarde l'icône de Pâques, l'icône de la descente aux enfers, nous voyons Adam et Ève qui cherchent à se mettre debout du tombeau, mais qui n'y arrivent pas. Ils ploient le genou, Adam pose le pied sur le tombeau, ils n'y arrivent pas. C'est la main du Christ qui tire Adam et qui tire Ève et qui les met debout. Donc il y a une coopération entre le désir de l'homme, qui est dans sa faiblesse, voit qu'il ne peut pas y arriver, et l'amour infini de Dieu qui le met debout. Qui le met debout, qui le relève et qui lui permet d'avoir la plénitude de la grâce. Et cette sainteté-là, elle est disponible, je dirais, à tous, sans condition.
Père Siméon, tous ceux que nous célébrons en ce dimanche de tous les saints se sont nourris spirituellement de la sainte tradition. Je vous prie de nous parler du sens de la tradition dans l'Église orthodoxe.
Dans nos églises, qu'elles soient d'origine grecque, russe, serbe, roumaine, bulgare, antiochienne ou française, nous recevons de nos pères ce que l'on appelle la tradition, qui est en fait le fruit de l'expérience de ceux qui nous ont précédés, le fruit de l'expérience vécue en Dieu, le fruit d'une expérience en Église. Et ce fruit-là, nous le recevons par des paroles, par des écrits qui demeurent, qui nous sont transmis et nous font vivre. Nous en vivons peut-être d'une manière dynamique, et c'est ce qui conviendrait le mieux, et non pas d'une manière statique, au sens où nous contemplerions un beau trésor qui ne nous servirait à rien. Il est nécessaire que la tradition soit dynamique, c'est-à-dire qu'elle soit dans la mouvance de l'Esprit-Saint. L'expérience des premiers apôtres était dans cette mouvance. Ils ont transmis aux premiers chrétiens, à leur entourage, puis aux autres générations, toute leur expérience, tout ce qu'ils ont reçu du Christ, tout ce que le Christ a vécu avec eux, tout ce qu'il leur a donné d'essentiel, de vital pour chacun. Eux-mêmes ont vécu de cette tradition, de cette expérience du Christ reçue, et ils l'ont transmise aux fidèles qui les entouraient, et qui, à leur tour, ont retransmis à d'autres cette tradition vivante. Nous sommes donc dans cette chaîne, et nous aussi, nous transmettons cette tradition. Recevant cette tradition, nous en vivons, et cette vie de la tradition est en fait le réel vécu de la spiritualité orthodoxe. Autrement dit, il y a dans l'exercice de la vie spirituelle orthodoxe la nécessité de recevoir le trésor que nous ont légué nos pères au travers de leur propre expérience. Il y a interaction, bien sûr, entre tradition et spiritualité. Nous ne pouvons pas vivre la spiritualité chrétienne orthodoxe sans recevoir cette tradition, et cette tradition est morte si elle ne s'exerce pas dans la spiritualité. Voilà donc deux données qui sont très proches l'une de l'autre et dont nous aurons l'occasion de reparler.
Père Simeon, quelle est la manière de transmettre cette tradition ?
Il y a, vous vous en doutez, beaucoup de modes de transmission, selon l'expérience de chacun, selon la vocation de chaque personne. Et tous, qui que nous soyons, nous avons un cheminement différent, les uns enrichissant les autres au travers de leurs expériences. Il est difficile de mettre au clair un schéma précis, il n'y en a pas, je crois, parce que l'esprit souffle où il veut et quand il veut. Mais nous pouvons dégager certaines lignes qui nous permettront de mieux comprendre comment cette tradition se réalise. Dans un premier temps, je dirais que nos pères nous ont transmis leur expérience au travers d'écrits que nous recevons. D'écrits très anciens pour certains, depuis les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres, au travers des écrits des pères comme ceux de Saint Grégoire, de Saint Basile, de Saint Jean Chrysostome et de bien d'autres, notamment plus récemment, comme Saint Théophane le Reclus, Saint Jean de Kronstadt, Saint Siloine. Ces ouvrages spirituels nous sont transmis, traduits, remis, nous les lisons, nous les méditons et nous les faisons nôtres, nous nous enrichissons à chaque page de cette expérience. Nous recevons ce témoignage comme quelque chose qui nous stimule, comme une consolation aussi, comme une parole qui vient de l'Esprit et qui est véritablement mue par l'Esprit. À partir de là, nous pouvons réfléchir, nous pouvons dialoguer, nous pouvons avancer, chacun, personnellement, selon notre propre vocation et en Église, avec ceux qui nous entourent. Il y a des œuvres à caractère plus spirituel, des méditations sur des textes évangéliques et bibliques. Il y a des ouvrages à caractère plus théologique, qui sont des réflexions qui nous donnent de mieux appréhender le mystère divin et de rentrer dans cette communion divine qui permet à l'homme de se transfigurer et d'être en lien avec le Seigneur, avec une plus grande force et une plus grande intensité.
Quelle est l'importance de la Sainte Liturgie dans cette transmission de la tradition ?
Eh bien, je crois que cette importance est conséquente. En effet, c'est un domaine qui nous permet de recevoir la tradition et d'en vivre. Je parlerai de la liturgie au sens large, c'est-à-dire à la fois la divine liturgie eucharistique, et puis tout ce qui entoure la liturgie, les matines, les vêpres, les heures, les hymnes acatistes, les canons, la paraclysis. Au travers de cette expression liturgique, nous recevons véritablement la prière de nos pères. Cette prière expérimentée dans le cœur et dans l'être, transmise au-delà de tout ce qui est pensable. Nos pères ont vécu cette quête de Dieu et nous en ont donné le fruit dans des textes superbes que nous aimons tant méditer et prier. Je crois qu'aucun d'entre nous n'est insensible à la liturgie de Saint Basile que nous célébrons plus particulièrement pendant le carême et qui est une extraordinaire composition théologique, liturgique, ecclésiale, qui nous permet de nous situer par rapport à Dieu et par rapport à l'homme et qui nous donne une énergie spirituelle profonde pour avancer vers le Seigneur et avec nos frères. Cette prière liturgique est évolutive dans le temps. Nous savons que les divines liturgies que nous pratiquons n'ont pas été fixées dès les premiers temps. Elles ont évolué, et puis elles se sont posées, et à un certain moment, nous les avons reçues comme étant véritablement l'acte, le témoignage oral, rituel de la prière de nos pères que nous avons fait nôtre. Il est intéressant de souligner qu'aujourd'hui, il y a dans nos diverses obédiences orthodoxes à la fois une manière de célébrer la liturgie dans la langue originelle de ceux qui sont venus sur cette terre de France, et nous avons ainsi des liturgies en langue slavone, grecque, roumaine, arabe, etc. Mais il faut rendre grâce à Dieu pour l'action de certains pionniers, et je pense là particulièrement à Vladimir Lovski, au père Michel Bielski, au père Liev Gillet, mais aussi à d'autres, qui ont su, par leur esprit d'ouverture, nous donner la possibilité de célébrer la liturgie dans la langue du lieu, à savoir le français, et qui nous ont donné naissance, qui ont donné naissance à des paroisses francophones qui vivent cette liturgie avec une grande fidélité et une grande force reçue de leur père. Il est peut-être nécessaire ici de rappeler qu'en 1925, une poignée de jeunes Russes, étudiants à Saint-Serge, créaient la confrérie Saint-Photius dans le but, je cite, « de faire ressurgir en Occident la tradition de l'Église indivise à partir de sources locales latentes, toujours vivantes, enfouies depuis le schisme sous les malentendus historiques. » Le but de cette confrérie n'était pas d'inventer quelques nouveaux rites, mais tout en conservant le trésor de la tradition reçue par les différentes églises mères, de retrouver aussi la tradition orthodoxe occidentale vécue en France par nos pères bien avant le schisme. Il y a plus de 70 ans, la confrérie Saint-Photius, proposant des bases canoniques, dogmatiques et liturgiques fidèles à la tradition orthodoxe, donnait la possibilité de voir émerger une église locale autonome. L'histoire en décida autrement, mais ce qui a été semé à l'époque pourrait aujourd'hui faire partie des bases de données pour notre réflexion ecclésiale, évitant toute forme de nationalisme, de filétisme, qui reste toujours une tentation bien présente, et permettant l'édification d'une Église qui fonctionnerait selon les canons mis en place par nos pères, enrichie des diverses traditions locales, y compris celles d'Occident, revivifiées pour les besoins de notre époque actuelle.
Quelle est la place de la musique liturgique dans cette transmission de la foi et de la tradition chrétienne ?
C'est une place tout à fait conséquente. L'expression de la musique liturgique a beaucoup évolué dans le temps. Et aujourd'hui encore, nous avons d'excellents chantres et maîtres de chœur qui, dans un rôle quasi sacerdotal, nous offrent la possibilité d'élever nos âmes vers Dieu au cours de la prière commune. La création de la musique liturgique se poursuit de nos jours et témoigne à la fois d'un grand respect de la tradition et d'une attention aux besoins de notre époque. Les communautés monastiques et paroissiales nous donnent un éventail intéressant de l'expression musicale liturgique aujourd'hui.
Aussi l'icône a son importance dans cette transmission de la tradition chrétienne.
Oui, bien sûr. La peinture d'icônes n'est pas, nous le savons bien, une simple expression esthétique pieuse. Cela est beaucoup plus grand. L'icône est, comme le disait Paul Evdokimov, une fenêtre sur l'éternité, une ouverture sur la relation à Dieu, avec la Mère de Dieu, avec les saints. Elle est un avant-goût d'éternité. L'icône est aussi une véritable catéchèse, un enseignement, non pas un des aspects de l'enseignement orthodoxe, mais l'expression de l'orthodoxie dans son ensemble. L'icône, image sacrée, est une des manifestations de la tradition de l'Église, au même titre que la tradition écrite et la tradition orale, nous dit Léonid Ouspensky. Elle propose à ceux qui la regardent de contempler le mystère de Dieu dans les diverses manifestations de son amour, et plus particulièrement au travers de l'incarnation du Christ, de contempler le mystère de la beauté des saints et de la Mère de Dieu. Elle est catéchèse, elle est aussi présence. Le Seigneur est présent au travers de son icône, il s'y manifeste, il se donne à nous. La Mère de Dieu est là, les saints nous sont proches, ils intercèdent pour nous, à notre demande. Et lorsque nous vénérons les icônes, nous savons que nous ne vénérons pas, bien sûr, un morceau de bois peint, mais nous vénérons celui ou celle qui est représentée, leur demandant d'intercéder pour nous ou rendant grâce pour les biens reçus. Nous sommes là dans la véritable efficacité du signe qui crée un lien profond, fort, important, qui nous unit au monde de l'éternité. Il faut être reconnaissant à Dieu de nous avoir donné de grands iconographes, comme Léonid Ouspensky ou le moine Grégoire, mais aussi pour ce mouvement iconographique qui se développe, s'amplifie, donnant naissance à plusieurs ateliers, à de nombreux iconographes qui nous transmettent l'expérience de la beauté de Dieu que nos pères ont su exprimer dans une telle variété d'expressions. Il faut aussi que nos iconographes actuels, surtout ceux qui se forment, comprennent qu'ils ne nous transmettent pas un art selon le monde, mais selon Dieu, ce qui signifie une réelle expérience de l'amour divin, vécue dans la prière, dans les larmes, et transmise dans l'humilité, vertu indispensable à acquérir pour tout chrétien, mais encore plus pour ceux qui sont désignés pour remplir une mission particulière dans l'Église.
Père Simeon, est-ce que vous pensez aussi que les autres sacrements qui font partie du culte chrétien orthodoxe ont leur importance dans la transmission de la tradition?
Oui, nous avons vu que la divine liturgie était véritablement une prière exprimée par nos pères, reçue et revécue à leur suite avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie intérieure. Mais évidemment, il faut parler aussi des divers sacrements qui font partie de nos traditions et sont la base de notre vie spirituelle. Ils ont été institués par le Christ, organisés par l'Église, et voilà que nous recevons Dieu à chaque fois qu'un sacrement est donné, que ce soit dans le baptême, lieu initiatique par excellence, ou plongé dans l'eau purificatrice, nous rejetons le vieil homme pour nous revêtir de l'homme nouveau qu'est le Christ, que ce soit dans la communion, au corps et au sang du Christ, où nous nous unissons à notre Dieu, où le sang de Dieu coule dans nos veines, où le corps de Dieu s'unit à notre corps, que ce soit dans le sacrement de la pénitence, où nous déposant devant Dieu, au travers de notre faiblesse, nous recevons en échange l'extraordinaire baume de la miséricorde du Seigneur, qui vient panser nos plaies et guérir nos maladies, nous permettant ainsi d'être debout dans la lumière divine. Et puis, tous les autres sacrements que nous connaissons, qui sont des lieux de rencontre.
Mais on doit avoir, bien sûr, un enseignement pour transmettre et changer la tradition de l'Église orthodoxe.
Tout à fait. Il faut souligner l'importance non négligeable de l'enseignement. Dans l'Église, il y a plusieurs manières d'enseigner les fidèles, de nourrir le peuple royal. Tout d'abord, il faut reconnaître que la catéchèse des enfants est très importante et rendre grâce à Dieu de son existence dans toutes les paroisses et plus directement dans leur propre famille, cellule ecclésiale privilégiée. Nos enfants, comme nous-mêmes, sont des chercheurs de Dieu. Ils ont été baptisés, communiés, chrismés. Ils doivent être enseignés, afin de mieux connaître la grandeur de l'amour du Christ. Dans la catéchèse, nous leur donnons ce qui est nécessaire à leur nourriture pour qu'ils puissent méditer, comprendre, insérer dans leur vie le message du Seigneur qui vient vers eux et qui leur dit qu'ils sont aimés. Cet enseignement est donné par des prêtres, des diacres, des fidèles, et cette communion d'enseignement est vitale pour le devenir de l'Église. Elle est une belle chose par rapport à la transmission de la tradition.
Est-ce que cet enseignement est aussi nécessaire pour les adultes?
Bien évidemment, c'est nécessaire pour les adultes. Et il y a dans toutes les paroisses la possibilité de se réunir pour transmettre un message spirituel, conférencier épisodique, prêtre qui gère le groupe, l'un ou l'autre fidèle qui prend la parole. Tout cela est nourriture, tout cela est réception de la tradition, parce que rien ne se dit sans la référence à nos pères qui ont vécu la relation à Dieu, qui l'ont cherché dans une quête très forte, intense, voire douloureuse à certains moments, et qui nous ont transmis leur expérience. Il est bon de dire que souvent, ce sont les fidèles eux-mêmes qui, avec la bénédiction de leur évêque et de leur prêtre, organisent ces rencontres fructueuses. Des conférences spirituelles se trouvent être à la disposition de tous dans les différents diocèses, et souvent d'ailleurs ouvertes absolument à tous ceux qui, orthodoxes ou non, cherchent Dieu. Nous avons maintenant des séries de conférences spirituelles qui nous sont présentées depuis déjà plusieurs années, par des conférenciers, des pères spirituels, et il est intéressant de constater que cela correspond à une demande réelle de ceux, jeunes ou moins jeunes, qui composent le peuple de Dieu.
Mais on sait que pendant chaque liturgie, il y a l'homélie, le sermon, qui est aussi très important pour cet enseignement, n'est-ce pas?
Oui, ne négligeons pas l'importance de l'enseignement homilétique, qui doit être dispensé par nos évêques, nos prêtres, voire nos diacres ou nos laïcs compétents. Ceux qui sont chargés de cet enseignement doivent le faire avec amour, dans la mouvance de l'esprit et dans un réel désir de voir grandir ceux et celles qui leur sont confiés, en leur dispensant ce que l'esprit souffle à leur cœur. Ceux qui reçoivent cet enseignement ne doivent pas considérer ce moment comme une pause ou un entracte, mais comme un temps de rencontre, un moment privilégié, où Dieu, bien au-delà du talent de l'orateur, aura quelque chose à leur transmettre.
Qu'est-ce que vous pensez sur cette liaison qu'il y a entre la vie paroissiale et la vie de charité qui doit caractériser tout chrétien?
Eh bien, voyez-vous, avant l'office ou après l'office, ceux qui viennent à l'église se rencontrent, se donnent des nouvelles, s'inquiètent de la santé de l'un, de l'autre, de l'évolution de chacun, des difficultés, des joies ou des peines. En définitive, nous nous réconfortons. Tout cela est transmission de l'amour. Parce que la transmission de la tradition est avant tout transmission de l'amour divin qui est donné à chaque homme et que chaque homme et chaque femme retransmet à celui ou à celle qui l'entoure.
Quelle est la relation entre la tradition et la paternité spirituelle dans l'Église orthodoxe?
Eh bien, je dirais que l'une des spécialités de l'orthodoxie est d'avoir conservé comme tradition vivante l'exercice de la paternité spirituelle. La place du Père spirituel y est non seulement légitime, mais considérée comme tout à fait indispensable. C'est une grande bénédiction pour l'Église orthodoxe d'avoir su garder cet équilibre entre une vie ecclésiale nécessaire et nourrissante et ce mouvement des pères et des mères spirituels qui, en transcendant l'institution de l'intérieur, permet à l'Église de devenir un ensemble de personnes appartenant à Dieu, vivant de Dieu et constituant chacune un reflet particulier de Dieu. Souvent, les pères spirituels s'inscrivent dans une filiation, et c'est en cela qu'ils transmettent la tradition. En devenant icônes de la compassion du Christ, ils permettent à ceux qui viennent vers eux d'avoir le cœur apaisé, et ce faisant de repartir sur le chemin du repentir, le seul en définitive qui mène à Dieu. Nous sommes là, vous le voyez, en pleine praxis, en plein exercice de la vie spirituelle, transmise par celui ou celle que Dieu a mis sur notre chemin pour nous soutenir. Nous devons rendre grâce à Dieu, me semble-t-il, d'avoir encore aujourd'hui des pères et des mères spirituels qui nous engendrent à la vie en Dieu. Par grâce et détermination divine, ceux qui ont été choisis pour aider autrui vont le consoler ou mettre sous ses yeux un miroir où il puisse se voir tel qu'il est, nu devant Dieu. Cette longue chaîne de pères et mères spirituels s'inscrit bien dans ce mouvement de transmission de la vie spirituelle au travers de la tradition de l'Église.
Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Une émission présentée et réalisée par Bogdan Florin Vlaicu. Les chants liturgiques ont été interprétés par les moines du monastère de Simonos Petra au Mont Athos et du monastère Saint-Antoine-le-Grand dans le Vercors par le groupe Studion et la chorale Saint-Jean-Damascène de Paris.